Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons besoin de temps pour connaître la vérité car elle est complexe. Ce sont les mots du Premier ministre libanais Michel Aoun, 12 jours après l'explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 170 morts et 6500 blessés. Michel Aoun répondait au micro de BFM TV. Il promet qu'il n'y a cependant pas de retard dans l'enquête. Enquête confiée à un juge local, les autorités refusant le principe d'une enquête internationale. En attendant des réponses, les Libanais sont en colère. Ils accusent la classe politique de corruption et d'incompétence. La capitale libanaise est dévastée et le secteur hospitalier est à terre. Déjà particulièrement affecté par la crise économique et financière et la pandémie de Covid-19, l'explosion du port lui assène le coup de grâce. En quelques secondes, 4 grands hôpitaux de Beyrouth ont été mis hors service alors qu'ils assuraient des soins à des milliers de patients. Aurélien Colli s'est rendu dans l'un d'entre eux, l'hôpital Saint-Georges, à quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion.
L'hôpital Saint-Georges était l'un des plus réputés de Beyrouth. Aujourd'hui, le bâtiment de 8 étages est défiguré. À l'extérieur, plus aucune vitre et à l'intérieur, tout est dévasté. Le docteur Al-Hachem était dans son département de cancérologie lors de l'explosion.
Tout d'un coup, on voit les gens, les visiteurs, les patients en train de saigner, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, infirmières, tous blessés et soit en train d'aider des gens à évacuer en dehors, soit en train de faire des sutures. C'est un vrai apocalypse.
11 morts, dont 4 infirmières, 350 patients évacués en urgence et des centaines de blessés qui n'ont pas pu être pris en charge. Une soirée de désolation et de destruction, résume le directeur de l'hôpital, le docteur Némé.
On a perdu 75% à peu près de tout ce qui est matériel médical ou bien non médical, tel que les lits, les chaises et tout ça.
Impossible encore d'évaluer le coût des dégâts, mais il se chiffre en millions de dollars. Et il y aura aussi le coût humain dans le personnel, souligne le docteur Al-Hachem.
Maintenant, on réalise ce qu'on a vu, toutes les images, comment gérer pour pouvoir continuer. Moi et mes collègues, c'est quelque chose qu'on discute presque tous les jours.
Pour se projeter dans l'avenir, l'hôpital Saint-Georges doit rouvrir rapidement, insiste la direction. Mais il faudra un an et de l'aide internationale pour refaire tout l'hôpital.
Aurélien Colli. La Russie va-t-elle intervenir en Biélorussie ? Hier, dans l'après-midi, Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Alexandre Loukachenko. Les deux présidents ont assuré que les problèmes en Biélorussie seraient vite résolus. Et le président biélorusse affirme depuis avoir reçu la promesse d'un soutien militaire en cas de besoin. Explication depuis Moscou avec Léo Vidal-Giraud.
Vladimir Poutine a-t-il donné des assurances à Alexandre Loukachenko ? Dans la soirée d'hier, après une discussion téléphonique entre les deux présidents, le chef de l'État biélorusse a multiplié les déclarations martiales, assurant s'être entendu avec Vladimir Poutine sur une aide militaire en cas de besoin, vantant la résistance de l'État et de son système, et puis répétant son mantra « Nous ne vous donnerons pas le pays », comme si les discussions avec son homologue russe l'avaient conforté dans sa certitude qu'il se maintiendrait au pouvoir, par la force s'il le faut. Et pourtant les experts doutent. Et si Loukachenko bluffait ? La Biélorussie, ce n'est pas l'Ukraine. Sa population n'est pas divisée entre pro et anti-russe. L'opposition ne s'y est jamais faite l'avocate d'un éloignement de la Russie ou d'un pivot vers l'Ouest. L'économie du pays est entièrement dépendante de la bonne volonté de Moscou, de ses exportations de pétrole à prix subventionné. Et cela, tous les Biélorusses en sont conscients. Par ailleurs, si les sondages montrent que la population biélorusse est largement favorable à des relations amicales avec la Russie, elle est aussi farouchement attachée à son indépendance. Difficile donc d'imaginer le Kremlin se lancer dans une aventure militaire qui serait bien plus incertaine que ne l'était l'annexion de la Crimée, par exemple. Et puis pendant sa campagne électorale, Alexandre Loukachenko a particulièrement irrité le Kremlin, jouant devant ses électeurs la carte de la menace russe, dénonçant des tentatives d'ingérence au point de faire arrêter, à quelques jours du scrutin, une trentaine de citoyens russes qu'il accuse d'être des mercenaires venus déstabiliser le pays. Pourquoi la Russie devrait-elle le soutenir maintenant, alors que quelle que soit l'issue de la crise, elle en sortira gagnante ? Si Loukachenko parvient à se maintenir au pouvoir par la force, il n'aura plus d'autres alliés que Moscou et devra accepter toutes les conditions que lui dictera Vladimir Poutine. S'il tombe, quel que soit son successeur, celui-ci n'aura pas les moyens de se détourner de la Russie.
Léo Vidal-Giraud. Et à suivre dans le journal de 9h, un témoignage glaçant d'un journaliste emprisonné 3 jours et torturé à Minsk avant d'être libéré. Minsk où des milliers de personnes ont été arrêtées depuis la réélection très contestée du président Loukachenko. Les témoignages de torture se multiplient. Les ministres des Affaires étrangères européens se sont entendus vendredi pour sanctionner le Bélarus pour fraude électorale et violence. Le MV Wakashio est bel et bien en train de se briser sur un récif de l'île Maurice. Ce vraquier est échoué depuis le 25 juillet dernier sur la côte sud-est de l'île, provoquant une pollution aux hydrocarbures. Un morceau important s'est déjà détaché de la coque. L'équipe de sauvetage affirme que son état s'aggrave et qu'il pourrait se briser à tout moment. Il reste encore 90 tonnes de pétrole à bord. Les gardes-côtes se tiennent prêts à intervenir pour l'absorber s'il se déverse, en sachant que du mauvais temps est prévu dans les jours à venir avec des vagues qui pourraient atteindre un niveau de 4 à 5 mètres de hauteur. Recep Tayyip Erdogan persiste et signe. Le président turc a confirmé hier que les recherches énergétiques en Méditerranée orientale allaient se poursuivre, que ça plaise ou non à la Grèce. C'est une zone riche en ressources gazières que se disputent Ankara et Athènes et qui est source de vives tensions diplomatiques qui vont crescendo depuis une semaine. À Istanbul, Benjamin Ely.
Rien ne dissuadera Recep Tayyip Erdogan. Il a dit encore dans un discours retransmis à la télévision hier, les sanctions, les menaces n'auront aucun effet, prévient-il, persuadé que son pays a raison. Nous ne reculerons pas, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, affirme le président turc, sans pour autant fermer la porte au dialogue. La tension est montée d'un cran lundi dernier quand Ankara a déployé un navire de recherche sismique escorté par des bâtiments de guerre dans cette zone revendiquée par la Grèce. Athènes a répliqué en plaçant sa marine et son armée en état d'alerte dans la région. La France a affiché son soutien en renforçant également sa présence militaire, devenant la cible du chef de la diplomatie turque vendredi dans une déclaration qui a marqué les esprits. Il accusait Paris de jouer au caïd. Le même jour, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne appelaient à la désescalade, alors que la Grèce exige désormais des mesures concrètes contre la Turquie.
Benjamin Ely. 2020-2021 sera une saison record pour la vaccination contre la grippe. Les fabricants mondiaux ont produit un nombre record de doses, particulièrement aux États-Unis. Le but étant de soulager les hôpitaux en malades de la grippe, et ce alors qu'un rebond de la pandémie de Covid-19 est attendu. En France, on enregistre une hausse inédite du nombre de nouveaux cas, 3300 en 24 heures. Les orages ont fait des dégâts cette nuit en Bretagne notamment. Des maisons ont été foudroyées, des campings évacués. Les sapeurs-pompiers du Morbihan et du Finistère sont intervenus plus de 200 fois. 11 départements restent donc en vigilance. Vigilance orange pour les orages, ça concerne le centre-ouest de la France. Quelques pluies à prévoir dans le sud-ouest, sur le reste du pays le ciel est couvert sauf près de la Méditerranée. Il fait de 14 à 16 degrés sur le nord-ouest, 15 à 19 ailleurs, jusqu'à 24 degrés au bord de la Méditerranée.